Voilà, c'était le groupe Experience avec une interpolation du titre de Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised. Et donc là, c'était la version française actualisée dans les années 2000 avec La Révolution ne sera pas télévisée. On accueille nos invités suivants. C'est un petit peu tumulte qui débarque sur Radio PFM. On n'est pas mardi soir pourtant. Il y a Jean, il y a Philippe et il y a Guy qui sont au micro de Radio PFM. Il y a Boris aussi dans le studio. Bonsoir à vous tous.
Salut.
Bonsoir.
Re-salut. Salut.
Alors attends, je te branche Guy, vas-y. Merci, tu peux retirer merci, si merci. Tu veux le casque qui rend ton
ah
truc.
Ah oui, c'est pas mon casque.
Casque jaune, micro jaune. Encore quelques années de radio et tu vas comprendre.
Alors quand on vient à Tumult, Nico, les casques, ils sont préparés. Tout est préparé au niveau technique. Là, tu vois, on arrive ici, c'est le Beans.
Ah, c'est le Tumult.
Voilà, on n'a pas balayé avant.
Et noir, c'est noir. Bah, là, je ne suis pas de ce côté-là. Je suis comme t'es, là, toi, là, derrière la console. Et il n'y a pas de problème non plus de casque.
Alors, Guy, est-ce que tu viens ce soir en tant que chroniqueur solidaire ou est-ce que tu viens en tant que représentant de l'intersyndicale arrajoise ? Parce que tu fais partie de l'intersyndicale d'Arras.
Alors, je ne me permettrai pas de venir au nom de l'intersyndicale arrajoise, puisque je n'ai pas été mandaté pour ça par l'intersyndicale. Ce que je peux dire, c'est que je suis dans une organisation syndicale de l'Arrajois. Je suis mandaté par cette organisation pour participer aux réunions intersyndicales locales. Alors, ce sont bien entendu les organisations qui sont mobilisées pour obtenir le retrait du projet de loi travail. Et donc, c'est à ce titre que je participe aux réunions. Donc là, ce soir, je peux donner des informations, bien entendu, mais je ne suis pas du tout mandaté par cette intersyndicale.
Alors, justement, les informations, là, qu'est-ce qui est prévu ? Je crois qu'il y a une réunion, d'abord, qui est prévue lundi, pour prévoir un petit peu la suite du mouvement.
Eh bien, tu es bien informé, voilà, un journaliste bien informé qui fait bien son travail. C'est effectivement qu'à Arras, l'intersyndicale locale se réunit lundi soir à 19h à la Maison des Sociétés, au local de la CGT. Alors nous, contrairement à ce qui se passe au niveau national, on se réunit quasiment systématiquement au local de la CGT. Au niveau national, ça tourne. Et c'est, pour la petite histoire, c'est l'organisation qui accueille l'intersyndicale qui est chargée d'écrire le premier jet du communiqué qui est ensuite discuté et donc communiqué, comme son nom l'indique, à la presse et à la population. Alors, je continue.
Oui, sur les actions.
Voilà, donc ce qu'on peut dire actuellement dans l'avancée des actions, des mobilisations, de la lutte d'une manière générale pour le retrait du projet de loi travail, on en est arrivé à trois types d'actions, de mobilisation. Et alors, il y a des actions, on va dire, locales ou sectorielles avec des blocages. Bon, on a beaucoup entendu parler des blocages de raffineries, ce qui s'est passé dans les stations essence, les coupures à EDF, les routiers, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des actions des interpros, des assemblées générales ou des intersyndicales locales qui organisent des blocages de ronds-points qui tentent de perturber le fonctionnement de l'économie. Dans le Pas-de-Calais, on en a quelques exemples, notamment à Boulogne, où ils sont vraiment sur le terrain. Donc, premier type d'action, entretenir régulièrement quelque chose, soit secteur par secteur, soit il y a aussi le rail ces derniers jours, soit au niveau d'assemblée, de intersyndicale, assemblée de salariés chômeurs, étudiants locaux. Deuxième action qui a été lancée et donc qui se confirme, c'est une votation. Donc un petit peu l'idée, c'est de contrecarrer ce qui s'est passé au Parlement avec le 49-3. Donc c'est de créer créer une action démocratique. Il y a l'intersyndicale nationale qui a préparé un texte qui est soumis donc à la population, aux gens qui sont aux personnes qui sont intéressées. Et puis à partir de ce texte, il y a deux questions qui sont posées. Il y a un bulletin de vote
Faut pas se tromper en remplissant le bulletin de vote.
C'est très simple. Donc le bulletin de vote, la première question, c'est retrait du projet de loi travail. Est-ce qu'on est pour ou contre ? Donc pour le retrait du projet de loi travail ou contre le retrait du projet de loi travail. L'idée, c'est quand même, elle est là, puisque c'est une initiative des syndicats qui sont mobilisés depuis plusieurs mois. Plusieurs semaines, plusieurs mois, sur cette action, et qui, eux, se battent pour le retrait du projet de loi travail. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu la confirmation d'un soutien populaire. On dit actuellement, selon des sondages, qu'il y a 70% de la population qui est favorable aux syndicats qui se battent.
Boris, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, j'ai deux ou trois petites questions, justement, à propos de cette votation citoyenne, parce que c'est quand même assez inhabituel, pour expliquer peut-être aux gens un peu comment ça se passe. Première question, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de référendum en fait ?
C'est une votation, donc c'est pas un référendum, parce qu'un référendum c'est quand même une action institutionnelle.
Hors institutionnelle.
Voilà, donc là on est, c'est plus, il y avait déjà eu, alors au début on avait appelé ça référendum, mais on préfère appeler ça maintenant votation. La même chose il y a quelques années avec la Poste, autour de la Poste, la privatisation de la Poste, etc. En fin de compte, l'objectif, c'est la communication. Donc, par exemple, je reviens à ce qui se passe localement sur Arras. L'idée de cette votation, c'est qu'elle soit, qu'elle soit organisée au niveau local, dans des entreprises, dans des administrations, dans des établissements scolaires, des facs, mais qu'elle soit aussi organisée à l'occasion d'un marché. Tout ça va être annoncé. Et l'objectif est donc de communiquer. Bien entendu, on sait très bien que ce n'est pas le résultat de ce vote qui va déterminer les choses, mais ça va permettre de mesurer l'impact, déjà voir combien de personnes ont accepté de remplir un bulletin. L'objectif, c'est quand même d'avoir plus de 2 millions de bulletins de vote. Déjà, ça, ce sera un indicateur. Et puis, le résultat, là, il est effectivement peut-être un peu plus anecdotique. Mais l'idée, c'est ça. C'est de montrer qu'il y a des gens qui ont envie de discuter et de voter et de se positionner.
Boris ?
Et du coup, est-ce que tout le monde peut voter, les jeunes ? Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de carte électorale, il n'y a absolument rien. C'est juste, est-ce que les lycéens peuvent voter ? Est-ce que tout le monde peut voter ? Et où est-ce que seront recentralisés tous les résultats ? Comment on va savoir, comment le citoyen va savoir ?
Le résultat. On part sur une confiance, bien entendu. Alors, c'est vrai, on pourrait toujours nous dire, il y a des gens qui peuvent remplir 5 ans le bulletin de vote et puis les mettre dans 5 ans d'endroits différents. Bien entendu, on n'est pas dans les primaires à droite. on n'est pas dans une organisation institutionnelle, etc., avec des candidats patati. Je rappelle, c'est ça, c'est une votation citoyenne, c'est une initiative de l'intersyndicale, mais c'est une initiative citoyenne. Alors, il y a peut-être des gens qui mettront 3 bulletins, il y a peut-être des gens qui voteront dans leur entreprise, puis ils vont être sur un marché, ils vont voir des gens qui demandent à voter, qui voteront une deuxième fois, mais tout ça, c'est anecdotique. Bien entendu, il n'y a pas de... D'ailleurs, le bulletin de vote, on peut indiquer son nom, on n'est pas obligé. C'est vraiment l'objectif, c'est une indication et une sensibilisation. Parce qu'avec cette votation, il y a un document. J'ai vu qu'ici, à PFM, on est lieu potentiel.
Il y a une urne,
avec des bulletins de vote, et puis surtout, donc il y a un document de 2 pages pour expliquer un petit peu le pourquoi du vote, et surtout la position des organisations syndicales qui appellent à cette votation, qui sont clairement, les organisations syndicales qui appellent sont clairement pour le retrait du projet de loi travail.
Alors il y a cette votation citoyenne, il y a les tentatives de blocage de l'économie, Et puis, il y a la journée du 14, alors, c'est ça ?
Voilà, donc je disais trois types d'actions. Hein, tu viens de rappeler les deux premières. Donc, avec des déclinaisons locales au niveau de la Rajoie, du blocage, etc. Sur Arras, il n'y a pas trop. Hein, il y a eu une action des routiers. Quand il y avait les mobilisations de routiers, il y a quand même eu un beau bazar sur Arras avec le blocage du carrefour de l'abattoir une demi-journée, hein, ce qui a bien perturbé les choses. Mais bon, depuis, on n'a pas eu de blocage. Il y a eu une manifestation, on a bloqué un petit peu le rond-point de Tchécoslovaquie, enfin c'est pas bloqué, on a distribué des tracts pour filtrer un petit peu, ralentir un petit peu la circulation. Bon, on s'aperçoit que même si on reste une demi-heure sur le rond-point, ça crée quand même des petits bouchons, quoi. Donc voilà, la votation, donc on va décider lundi en intersyndicale d'un rendez-vous, plusieurs rendez-vous, de l'intersyndicale, donc des rendez-vous pour les citoyens qui ont envie de voter, donc sur des lieux sur le marché, peut-être des endroits de ce type. Ensuite, chaque organisation peut l'organiser aussi sur son propre terrain. Et donc, troisième type d'action, ce sont ce qu'on appelle les grosses journées. Il y en a eu plusieurs depuis le 9 mars, qui était la première journée de mobilisation nationale, avec des appels à la grève interprofessionnelle, à des manifestations importantes. Et le prochain rendez-vous, il est vraiment important, puisque c'est le 14 juin, et c'est à Paris, hein, puisque là, c'est un appel. Ce sera la première manifestation, le premier appel à une manifestation nationale à Paris, hein, puisque jusqu'à présent, c'était des manifs locales, etc. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, bon, il y a des personnes qui nous disent, oui, mais la dernière mobilisation, c'était le 26, la dernière journée, c'était le 26 mai, hein, il me semble. Donc 26 mai, 14 juin, ça fait un peu loin. Oui, mais bon, entre-temps, il se passe des choses au niveau local ou sectoriel. Et puis, bon, organiser une manifestation nationale à Paris, un jour de semaine, hein, puisque le 14, c'est un mardi, ça veut dire que il faut aussi que pas mal de gens se mettent en grève. Hein, donc, de fait, blocage de l'économie, ça se prépare. Hein, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut organiser des bus, etc. Et donc là, au niveau de la Rajoie, on va aussi en intersyndical s'organiser. Alors, chaque syndicat, les grosses organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, vont prévoir des bus, mais vont aussi permettre à des personnes, hein, de participer à ces bus. Donc il y aura aussi une organisation commune pour permettre à des gens de participer à cette manifestation. Donc ça, c'est le troisième temps, et qui alors devrait déboucher sur un dernier temps, puisque on parlait de la votation, fin juin, hein, avec un autre rendez-vous où là seront remis les résultats de la votation citoyenne.
Boris, ouais,
juste une dernière question sur cette votation. Je crois qu'on peut télécharger.
Ça le travaille, Boris, la votation.
Il faut qu'on explique aux gens comment ils peuvent faire pour télécharger éventuellement. Voilà, s'ils veulent, on peut télécharger toutes les infos sur un site.
Oui, c'est le site Votation Travail, mais il suffit de taper CGT, il suffit de taper FSU,
Votation,
Solidaire.
Travail, ça, loi
voilà,
travail,
et puis on trouve quoi. Mais je pense que ce qui est intéressant, alors on peut. Si on est isolé, etc., on peut fonctionner comme ça. Mais le mieux, c'est de le faire soit dans son entreprise, soit, soit dans un lieu public. Sur le site, ce qui va être intéressant, là, il n'est pas encore tout à fait à jour, c'est qu'il va y avoir tous les rendez-vous locaux, hein, d'organisation de ce moment de votation. Par exemple, nous, lundi, en intersyndicale, si on décide de donner rendez-vous pour cette votation sur Arras, sur des marchés à Arras, eh bien, on l'indiquera sur le site. Et donc, les Arrajois qui ont envie de voter, ils verront à Arras, votation possible, tel jour, à telle heure, à tel endroit.
Alors, le 14 juin, c'est pas une date qui a été prise par hasard, hein, c'est le début du débat au Sénat sur cette loi travail. Hein. C'est pas le jour de Pologne-Allemagne dans la Coupe d'Europe. Hein.
C'est là où elle revient au Sénat,
au Parlement.
Au Parlement, à l'Assemblée. Le Sénat, c'est terminé.
Oui, c'est au Parlement.
Quasiment terminé.
Je suis pas sûr, mais bon, on verra ça.
Le Sénat, si vous suivez l'actualité, hein, le Sénat vient de décider de durcir le texte, hein, de la loi travail, en supprimant notamment la référence aux 35 heures, hein, qui restait. Et alors, on sait très bien que ce durcissement, hein, qui est imposé qui a été voté au Sénat majoritairement à droite, quand le texte va revenir à l'Assemblée, hein, ça va être assoupli. Mais là, c'est ce qui vient de se passer. Hein. Le Sénat s'est déjà positionné, et l'objectif du Sénat, c'est de durcir le texte.
Je me tourne maintenant vers nos autres intervenants, donc Jean et Philippe, pour voir un petit peu votre point de vue sur où on en est dans cette mobilisation. Comment vous voyez un petit peu l'état des choses aujourd'hui,
Jean? Moi, je dirais qu'il y a un premier trait notable, quoi, qui est important, c'est la durée du combat, quoi, la durée de la lutte. On aurait pu estimer que c'était un mouvement qui allait s'amoindrir, s'amincir pour différentes raisons, et puis qu'il allait y avoir un pourrissement qui était joué clairement par le gouvernement. Et manifestement, ce truc-là, ça marche pas. Le mouvement, il dure, et c'est une durée qui est pas anodine quand même. Ça fait des semaines. Et puis c'est un mouvement qui a trouvé quand même ses modes d'action appropriés à une situation vraiment très différente de ce qu'on a connu précédemment. Bon, il y a quelques traits quand même communs avec ce qu'on a connu quand il y a eu des grèves, qu'on disait par procuration. Tout le monde ne pouvait pas faire grève parce que c'est très difficile de le faire pour les salariés qui sont pas protégés, qui ont des conditions de niveau de vie très très difficile. Bon, on l'avait déjà rencontré. Là, c'est manifeste. Pour tenir dans la durée, c'est effectivement les secteurs qui peuvent le faire tour à tour et qui peuvent le faire au moindre frais pour tout le monde. Alors, le pouvoir et puis certains médias peuvent jouer sur le fait que c'est un mouvement minoritaire. Bien sûr que non. Et les sondages dont sont friands ces mêmes médias montrent que le mouvement reste tout à fait populaire et que la population est très majoritairement pour le retrait de ce projet de loi. Et d'ailleurs, la votation, elle est dans le droit fil de la première pétition qui avait recueilli 1,5 million, je crois, ou 1,3 million de signatures. Il s'agit en fait, à travers cette votation, de confirmer que le rejet du projet de loi est toujours aussi massif. Donc ça, c'est le premier point pour moi, c'est la durée quand même du mouvement. Le deuxième point qui me paraît important, on l'avait déjà souligné précédemment, c'est la tactique du pouvoir en matière de répression policière. On parle de la police, mais il faut parler de tactique de l'État, stratégie policière de répression, quand même, qui est nouvelle, même si auparavant on connaissait ce qu'on appelait la criminalisation du mouvement social. Là, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit d'encadrer, de sectionner les manifestations au plus près, d'aller au contact, de blesser les gens volontairement. Il s'agit de faire mal, de marquer les corps, et on le voit tous les jours, quoi. Bon, si vous avez regardé les vidéos sur la répression de du rassemblement des parents, élèves, enseignants devant un collège, c'est hallucinant. Et puis les dernières images là de matraquage des jeunes qui ont manifesté à Rennes.
Rennes, c'est atroce.
Avec la presse qui en prend plein la tronche en même temps, ce qui va les faire quand même, faudrait quand même que cette catégorie professionnelle se révolte un peu et marque un peu les grands médias, quoi, qui ont vraiment matraqué sur la police qui était victime de la haine de tout le monde. Et c'est évident que les gamins qui ont été malmenés devant le collège, ils vont détester la police. Et tout le monde déteste la police. Et puis voilà, c'est une stratégie policière, une stratégie d'État, dans laquelle, dans cette stratégie, les policiers sont amenés à avoir une liberté de mouvement et de frappe qui est tout à fait autorisée par l'État. Il faut le juger politiquement. Ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, je vais laisser Philippe quand même parler, c'est que, en fait, quelle que soit l'issue, bon, c'est très important, évidemment, de gagner sur le retrait de la loi travail. Ce qui est quand même vachement nouveau, c'est que là, il y a une nouvelle génération militante politique qui est en train de se former et qui se forme dans une lutte face à un gouvernement qui, théoriquement, se prétend de gauche. Et ça, c'est un marquage pour ces nouvelles générations qui est vachement important. Et ça, ça va rester. Ils vont avoir affaire à ça pendant un bon moment. Ils vont avoir du mal à s'en sortir.
Philippe ?
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Peut-être juste
rajouter un ou deux points sur effectivement la détermination, la détermination des gens qui sont dans le mouvement. Bon, moi je travaille dans la Somme, donc je suis aussi allé manifester à Amiens, par exemple. Et j'ai pu voir que, en réalité, il y a donc la semaine dernière, il y a eu une manifestation avec un bon millier de personnes. Ils ont fait d'ailleurs, il y a eu une action devant la gare assez spectaculaire où ils ont brûlé des pneus. Bon, voilà. Et donc j'ai pu voir à quel point, bon, à Arras, on le voit pas énormément, mais à quel point il y a vraiment un noyau de gens qui sont là depuis maintenant des mois en fait. Hein, et qui sont tout à fait déterminés. Après, sur la répression du mouvement, il y a d'une part effectivement la répression policière dont on peut voir les images qui sont quand même assez hallucinantes, quoi. Hein. Et puis il y a aussi la répression judiciaire. Hein. Il faut pas oublier qu'en ce moment il y a quand même un certain nombre de gens qui sont dans le mouvement et qui sont convoqués au commissariat, mis en garde à vue, arrêtés. Hein. À Lille, il y a un militant
en détention provisoire jusqu'à son procès.
Hein. Il y a un militant de la CGT, c'est ça, hein, qui est en prison. Bon, à Amiens, il y a eu une condamnation aussi cette semaine à 10 mois de prison, dont un ferme pour quelqu'un qui avait participé à deux actions, qui était reproché d'avoir participé à deux actions à la gare et puis à l'occupation de la mairie d'Amiens. Occupation d'ailleurs qui avait donné lieu aussi à... Ils ont été évacués de la mairie de manière extrêmement brutale, quoi. Voilà, donc ça veut dire que la détermination, elle se joue aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui sont dans le mouvement, ils savent très bien qu'ils se heurtent à ça et que c'est quelque chose qu'ils sont prêts à prendre en compte, quoi. Donc ça prouve quand même que contrairement à ce qu'on nous dit, les gens savent très bien pourquoi ils sont mobilisés, contre quoi ils se mobilisent, et je pense que l'opposition à la loi qui au départ pouvait être un peu vague, aujourd'hui elle s'est beaucoup précisée, quoi, sur les enjeux dans l'esprit des gens, et c'est en ce sens que ça prend aussi une signification politique, comme le disait Jean.
Guy, peut-être sur la situation et aussi sur la répression policière, peut-être.
Oui, il faut dire, il y a aussi une personne. Alors, je dis une personne parce que c'est pas un manifestant, c'est quelqu'un à Paris là qui assistait au cortège, qui observait, qui prenait des photos, hein, qui est dans un état de santé très grave. Il a pris un éclat d'une grenade ce qu'on appelle les grenades de désencerclement, qui sont censées exploser, selon la police, hein, au niveau des jambes et pas plus haut, donc, et créer des bleus, etc. Mais bon, il y a une photo qui circule dans la presse, hein, où on voit que juste après l'explosion de cette grenade, il y a des éclats qui sont qui se baladent, donc on s'imagine avec quelle puissance, à hauteur de visage et même plus haut. Donc cette personne a reçu un éclat d'obus dans la tempe, hein. Elle est dans le coma, on ne sait pas comment elle va sortir de là. En tout cas, il y aura des conséquences neurologiques très graves. Et donc, hein, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la stratégie. Parce que bon, on parle de répression, de violence policière, répression, judiciarisation, mais c'est la stratégie du gouvernement, qui a été une stratégie de pourrissement, dénoncer des casseurs, etc. Il y a une manif hein, où on nous a fait tout un plat avec je ne sais pas combien de policiers blessés, mais bon, des policiers qui sont dans cette situation hein, de blessures très graves, on n'en connaît pas. Donc c'est vrai que là, bon, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, il y a à la fois un choix de gouvernement et à la fois, donc, il va y avoir un regard hein, sur bien, cette stratégie, ça va avoir des conséquences sur le regard que la population peut porter sur la police. Ce que je voulais dire pour aussi par rapport hein, donc, aux trois points de Jean, il y a son troisième point sur le fait qu'il y a une nouvelle génération de militants. Bon, on n'a pas prononcé encore, je pense, l'expression nuit debout, même si ça peut s'appeler autrement, mais on peut considérer que ce cette nouvelle, enfin ce nouveau type de d'organisation, un petit peu, enfin de d'échange, de tentative de démocratisation du mouvement social, elle est apparue en lien direct avec les mobilisations par rapport à la loi travail. Et ce qui se passe, c'est intéressant, c'est un peu compliqué, hein, comme tout le mouvement. Jean a dit que le mouvement, on percevait des points communs avec ce qui s'est déjà passé, et puis il y avait aussi des nouveautés. Donc ça, c'est quand même une nouveauté de volonté, cette volonté, hein, de fonctionner un peu autrement, alors de réinventer des règles de démocratie, etc. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de passer par là. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Mais il y a une difficulté quand même, une difficulté du côté, hein, des personnes qui sont mobilisées, c'est qu'on n'est pas dans des mouvements comme en 2006 au niveau du CPE, ou même 2010, les retraites, surtout 2003, hein, les derniers, ou le mouvement de référence, puisque c'est le dernier gros mouvement qui avait obtenu satisfaction, 95, contre Juppé, qu'on va peut-être retrouver comme président dans quelques mois. On n'est quand même pas, sauf, hein, sur certains secteurs, et encore, pas depuis la première manifestation le 9 mars, sur une mobilisation tous les jours. On n'est pas sur des grèves reconductibles interprofessionnelles. On est encore dans un mouvement qui est un petit peu, qui est organisé par secteur. Et c'est peut-être ce qui fait la difficulté aussi de créer vraiment un vrai rapport de force.
Jean, là-dessus?
Ouais, non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Guy. C'est pour rajouter un petit peu sur une marque aussi du mouvement. C'est que bon, c'est bien entendu maintenant pour tout le monde que la représentation politique est complètement décalée par rapport aux mobilisations sociales. Il n'y a pas d'alternative politique aujourd'hui en France, et qu'on se dit bah faudrait qu'un jour cette recomposition politique elle ait lieu, qu'il y ait une alternative, etc. Mais c'est pas là-dessus que je voulais dire, c'est en fait sur la recomposition syndicale, parce qu'on est quand même dans une période très très particulière où de fait le mouvement n'est pas encadré nationalement. Il n'y a pas de structuration syndicale du mouvement au niveau national, que ce soit au niveau intersyndical ou par un syndicat qui serait largement hégémonique, etc. Il n'y a pas ça, et il n'y a pas non plus de coordination. Parce que dans les, par exemple, mouvements CPE, les mouvements de 95, etc., il y avait des coordinations d'AG, il y avait des coordinations de CIPLA, et il n'y a pas ça. Et c'est un drôle de mouvement quand même, parce que c'est un mouvement qui n'est pas charpenté. Alors c'est une force, parce que ça permet... tout un tas d'initiatives nouvelles, hein, qui étaient auparavant verrouillées par différentes bureaucraties. Mais en même temps, c'est quand même une faiblesse, parce qu'on se dit, il y a des moments, la stratégie, c'est quoi, quoi. Il faut l'inventer au jour le jour. Et d'une certaine manière, il va falloir inventer la recomposition syndicale, certainement à chaud. Je ne sais pas comment ça peut se passer, Guy, je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus.
Si, on est d'accord. En fin de compte, ce qui se passe, hein, on a une intersyndicale nationale qui se réunit régulièrement, qui sort des communiqués avec quelques rendez-vous. Mais comme là, on l'a vu, hein, entre le 26 mai et le 14 juin, il se passe beaucoup de choses. Donc dans le communiqué, il est dit aussi, dans le dernier communiqué, eh bien, organisez-vous, faites des choses. Et puis, donc il y a une ouverture, hein, qui est donnée quant aux mobilisations, aux salariés, etc. Et à la base, dans les entreprises, dans les administrations... On regarde le communiqué intersyndical, et puis on dit, mais bon, le prochain rendez-vous, c'est le 14 juin, mais qu'est-ce qu'on fait d'ici là? C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais peut-être que effectivement ça va créer quelque chose de nouveau.
Boris, et après on fait une petite coupure musicale, si vous voulez bien.
Ouais, moi je voulais revenir un petit peu sur ces répressions policières, parce que je m'intéresse beaucoup justement à ce côté-là, et je vérifie surtout mes sources, hein, pour pas avoir n'importe quoi. Alors on constate peut-être pas... C'est peut-être pas une nouveauté, mais on constate aussi que beaucoup de CRS et de policiers présents sur les manifestations et qui sont assez violents ne sont pas matriculés. alors que normalement c'est obligatoire quand ils sont dans le cadre de leur fonction. Mais remarque surtout que de jeunes journalistes et même des gens qui filment dans la rue, le type lambda avec même le périscope, etc., qui fait beaucoup, beaucoup de mal, hein, d'ailleurs, à ce genre de constat justement policier, informe tous les gens et les citoyens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Je remarque, ne savaient pas qu'un flic devait être matriculé quand il était dans le l'exercice de ses fonctions. Et donc du coup, même les médias dominants sont un petit peu baladés, on va dire, parce que le journalisme, c'est plus eux qui le font, c'est les jeunes dans la rue, et ça c'est une nouveauté. Par contre, ça commence à prendre de l'ampleur, et je pense que ça va énormément marcher sur le net, surtout si justement à nouveau le 49.3 arrive, et surtout si la loi finit par passer, en espérant pas. Ouais, Guy.
J'indiquais à Nicolas que je voulais dire un petit mot après ton intervention.
Et la deuxième chose, c'est une question que je me pose, c'est du côté politique. Est-ce que justement on peut encore espérer cette fameuse motion de censure qui peut être votée une deuxième fois et qui peut cette fois-ci faire capoter pas mal de choses, notamment la mise à mal du gouvernement.
Non, je reviens sur la première partie, hein, sur les difficultés là, au niveau des manifestations, hein, par rapport à la répression. Vous allez sur le site de la CGT, vous allez sur le site de Solidaires, sans doute celui de la FSU, une des principales organisations. Moi, je vous recommande CGT et Solidaires, parce que là, il y a un document très clair, il y a un guide du manifestant en 4 pages. Hein, vous le téléchargez, vous l'imprimez, quand vous allez manifester, vous mettez ça dans votre poche, ça rappelle des principes de base, hein, du manifestant, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Ses droits.
Voilà les droits, et puis bon aussi rappeler que ce qui est important, c'est de rester en groupe, c'est de rester dans les cortèges, etc. Mais il y a aussi des rappels sur le type d'interpellation, hein, qui peuvent être menées par la police, comment réagir, etc. Donc ça, c'est des documents, il faut pas hésiter, il faut aller télécharger, hein, c'est 4 pages, et puis mettre ça dans sa poche quand on va manifester. Alors, parce que c'est vrai que nous, sur Arras, on n'a pas été confronté, hein, vous êtes des journalistes, vous le savez, on n'a pas été confronté à ça, c'est même assez peinard à Arras. Et alors souvent on dit, c'est normal, c'est une petite ville, on connaît, on est d'ici, quoi, et c'est bon, ce qui est dur, c'est dans les grandes villes. Mais il faut savoir que là, pendant ce mouvement, il n'y a pas que les manifs des grandes villes, hein, qui ont été réprimées. Il y a des villes de. Il suffit de regarder Boulogne, etc. Il y a eu beaucoup, hein, d'interventions très dures de la police, même sur des petits cortèges, des cortèges de 3-4 000 personnes. Qui ne dégageait aucune violence et volonté de détruire les biens publics.
On fait une petite pause musicale et on vous retrouve juste après.
Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Passant qui dans ce monde a perdu l'essentiel, cloué à ton destin par la superstition. Imagine un instant, ni paradis au ciel, ni enfer sous nos pieds, ni autre diversion. Personne à remercier pour l'aube dans nos cils, quand chaque jour nouveau rien n'est aussi luisant. Essaie d'imaginer ce vœu simple et facile, l'entière humanité vivant libre au présent. Tu peux répondre en souriant que je ne suis qu'un doux rêveur, mais l'espoir est si brillant que lui partout sa ferveur. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Incrédule et conscient, écoutant ta raison, peux-tu dès lors admettre entre nos différences que soient dressés des murs comme autant de prisons, cloisonnant nos tribus selon nos apparences. Imagine un pays unique et sans drapeau, où seraient révolus les guerriers sacrifices, sans clan ni religion ni marque sur la peau, où pourraient vivre en paix nos filles et nos fils. Ce désir de changer les choses pourrait bientôt gagner chacun. Si tu nous rejoins, si tu oses, et le monde ne fera qu'un. et le monde ne fera qu'un. Et le monde ne fera qu'un. Imagine juste un instant. 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 Ce désir de changer les choses pourrait bientôt gagner chacun. Si tu nous rejoins, si tu oses, et le monde ne fera qu'un.
Cyril Gontier avec une reprise lennonesque. Ça figure sur la bande originale du film grec, enfin franco-grec, Ne vivons plus comme des esclaves. Vous êtes toujours dans cette émission, cette soirée radiophonique debout à la Radio 2. Donc une antenne ouverte à celles et ceux qui se mobilisent contre la loi travail et plus largement pour la convergence des luttes. On a dans le studio de PFM nos tumultiens, donc Jean, Philippe et Guy. Et il y a aussi Boris. Boris, tu as posé une, tu as soulevé la question de la motion de censure à l'Assemblée nationale. Alors peut-être quelqu'un voulait réagir là-dessus, Jean?
Au-delà de la question de la motion de censure quand le texte du Sénat va repasser au Parlement, au-delà de cette question-là qui est un peu de l'ordre politicien, quoi, au-delà de ça, c'est est-ce que le gouvernement, le président, va chercher une porte de sortie qui simulera... le maintien tout en retirant le texte. C'est un peu plutôt cette interrogation-là. Quelle porte de sortie il y a de possible. Bon, pour l'instant, il est clair que le président, le premier ministre et puis le gouvernement sont sur une ligne de fermeté qui est en fait l'affirmation que les gouvernements précédents, y compris les gouvernements de droite, principalement les gouvernements de droite, ont tous reculé face au mouvement social. Et ce gouvernement et ce président sont le personnel politique qui est capable de faire face et de ne pas reculer face à la rue. Et ça, c'est une affirmation politique qui est quand même extrêmement grave. Hein, c'est clairement positionner le gouvernement. Alors le Parti Socialiste, il doit avoir du mal à s'y retrouver dans ce positionnement-là. C'est quand même positionner le gouvernement et le président sur une position antisociale. Concrètement, on a là vraiment l'impression que la volonté de Valls et du président, c'est d'éliminer le mouvement syndical rebelle. C'est qu'il n'y ait plus de mouvement syndical qui soit un mouvement syndical de lutte. Or, bon, bah, qu'on le veuille ou non, le capitalisme, il fonctionne avec des gens qui font tourner l'économie, qui n'ont pas les moyens de production et que leur seule arme, c'est de refuser de travailler. C'est ce qu'on appelle le droit de grève. Et ça, ils veulent le remettre en cause, c'est clair. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une porte de sortie? Il y en a une possible pour le gouvernement, c'est de dire, c'est au moment où le texte du Sénat va revenir, le texte du Sénat va être extrêmement droitisé. Parce qu'il y a un principe de surenchère de la droite pour être plus à droite que le gouvernement dit de gauche. Et donc, il va y avoir un positionnement possible du gouvernement de dire on va amoindrir les choses, on va laisser faire le jeu du Parlement et peut-être arriver à une réécriture de l'article 2. Je suis pas sûr que c'est ça qui va se passer. Hein. De toute manière, tout dépend du mouvement social et au bout du compte, est-ce qu'ils pourront faire ce type de manœuvre? Bon, voilà.
Bah, ils seront peut-être pas obligés d'aller jusqu'à rediscuter de l'article 2, puisque, alors effectivement, le débat, tu nous le confirmes, Nico, le débat au Sénat officiel commence le 14 juin, soyons...
c'est un bon jour,
c'est raison. Ouais,
soyons précis, mais néanmoins, les commissions sont déjà réunies, ont examiné le texte et ont pris des décisions, et comme on connaît la majorité politique du Sénat, elles seront adoptées, hein, et donc c'est revenir sur les 35 heures, donc à partir de là, le Parti Socialiste, hein, la majorité gouvernementale, n'aura peut-être pas besoin de revenir sur l'article 2, mais simplement dire, écoutez, écoutez, nous, les 35 heures, on laisse ça dans le texte. Hein. Vous voyez, si c'est la droite qui est au gouvernement, pouf, voilà ce que vous allez avoir. Donc, hein, ça est une manière, hein, je pense, de peut-être pour eux, hein, de se donner une image moins à droite que la droite. Et moi, je voulais aussi revenir sur une chose dont on entend un peu moins parler. Il faut se rappeler quand même que tout début, et puis dans les semaines qui précédaient la présentation du projet de loi, l'argument numéro un, c'était la lutte contre le chômage. Hein, c'est-à-dire une loi pour créer de l'emploi, de l'embauche. Hein, faciliter, on a assez glosé là-dessus, faciliter les licenciements pour créer de l'embauche. On n'en parle plus trop, parce que bon, en même temps, Hollande, il est devant une contradiction, parce que d'un côté, il dit que ça va mieux, hein, il y a des chiffres du chômage qui sont en légère amélioration. Donc ça veut dire que la loi ou pas loi, c'est pas ça qui va faire, hein, qu'il y ait plus ou moins de chômage. Ça, on le sait très bien. La majorité des économistes, hein, des spécialistes de ces questions le reconnaissent. Par contre, ce qui est sûr, hein, c'est que c'est une loi qui est basée sur l'idéologie d'une société centrée sur l'entreprise. Et une entreprise, hein, qui a pour objectif de la rentabilité, de faire des bénéfices, faire vivre des actionnaires. Enfin, c'est une entreprise, une société financiarisée. Et donc, ce qui se passe dans la rue, bon, c'est pas forcément une remise en question de l'entreprise, bien au contraire, mais c'est promouvoir une autre vision de l'entreprise. L'entreprise, on peut la voir autrement, hein, au service de quelle production dans la société. Enfin, une entreprise démocratique, hein, pour produire, pas pour s'enrichir, mais pour produire, pour améliorer la vie au quotidien, etc. Et les discussions, les débats, hein, qu'on peut entendre ici et là, eh bien, je pense aborde cette question. On est vraiment face à cette opposition. Une société au service d'une entreprise qui doit faire des bénéfices et une entreprise au service de la société et du bien-être collectif.
Philippe, peut-être ?
Oui, juste peut-être pour revenir sur ces enjeux plus généraux. En fond, ce qui est frappant actuellement, c'est le fait que évidemment, manifester, c'est aussi déjà manifester pour la liberté de manifester, quoi. C'est-à-dire que dans cette stratégie autoritaire de l'État, il y a quand même l'idée que finalement, eh bien, si on pouvait arrêter de manifester, ce serait pas mal. Donc, ça veut dire que je crois que ce qu'on voit aussi se mettre en place, c'est d'une part le libéralisme économique et le fait de s'attaquer à ce qu'ils appellent les rigidités du monde du travail et un autoritarisme. C'est ça aussi qui se met en place aujourd'hui devant nous, quoi. Et ces deux aspects sont finalement profondément liés. C'est-à-dire que à la fois il faut nous imposer un certain nombre de régressions sociales. Et pour pouvoir les imposer, eh bien, finalement, à un moment donné, on est obligé, en quelque sorte, de faire preuve de la part du gouvernement et de l'État d'un certain autoritarisme. Bon, avec évidemment le prétexte de l'état d'urgence.
Peut-être une dernière petite question, Boris ?
C'est pas vraiment une question, c'était un constat surtout. Pour parler de porte de sortie tout à l'heure, on peut aussi constater d'ailleurs que le gouvernement a déjà tenté d'entrouvrir la porte en donnant des cadeaux qui n'étaient pas forcément prévus, notamment l'augmentation assez conséquente des enseignants. Et puis le fait de payer les heures supplémentaires aussi pour les cheminots qui n'étaient pas prévus au départ. Donc. Il essaye déjà de donner quelques cadeaux pour essayer de... Mais ça ne marche pas, apparemment. Hein.
Bah, il démine ouais. Partiellement, quoi. Mais bon, voilà.
Déjà, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des dus. Enfin,
c'est des dus, oui, mais sous forme de cadeaux, là. Ouais,
c'est présenté de cette...
Peut-être une dernière question quand même. Bon, Jean, on a parlé un petit peu du rapport entre le mouvement social, on va dire classique, syndicats, manifs, etc., et ce qui est plutôt un peu inédit pour ce mouvement social, les nuits debout, etc. Et comment vous voyez un petit peu ça, notamment, bon, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, j'imagine, aux différentes nuits debout à Paris, peut-être à Lille ou à Arras, comment vous avez vu ça se mettre en place et puis comment vous jugez ça?
Moi, ce que je dirais d'abord, c'est que je pense que un syndicaliste, hein, qui participe aux premières rencontres de Nuit Debout. Et bon, et tout ça, je l'ai déjà, hein, je l'ai déjà peut-être pas entendu, mais enfin, bon, je connais. Puis inversement, quelqu'un qui a Nuit Debout, qui n'est pas dans le mouvement, qui irait à une réunion intersyndicale ou à une réunion syndicale, il se dirait, bon, c'est quoi ces conneries, quoi. Hein. Donc, l'idée, c'est comment faire converger ça. Et je pense que, c'est ce qui est intéressant. Bon, moi, j'ai vu aux manifestations à Arras, j'ai vu une banderole, il me semble, alors je sais pas comment elle s'appelle, c'est Arras Debout, Nuit Debout. Donc, voilà.
Arras, virgule, debout, point d'exclamation.
Voilà, voilà. Hein, donc, il faut être précis. Hein, donc, voilà, on en arrive. Hein, c'est bien. Hein, ça montre qu'à Arras, il y a une réflexion.
Sur la ponctuation.
Ouais, voilà. Hein, c'est la virgule, comme on dit, la virgule bourgeoise, hein, c'est ça. Et donc, il y a quand même les temps, justement, de manifestation, etc., où tous ces personnes qui s'engagent se rencontrent, et puis on verra comment ça va évoluer. En tout cas, tout est intéressant. À partir du moment où on discute, on réfléchit, on se pose des questions, on soumet des idées d'action, et c'est du positif.
Philippe, Jean ?
Juste une petite chose sur Nuit Debout, mouvement intersyndical. Je crois que c'est un mouvement qui est pluriel, au sens où il y a plein de formes d'insertion dans le mouvement, suivant les différentes personnes, les lieux, les catégories sociales, etc. Et ça, c'est bien. Et qu'il y a différents rythmes aussi. Moi, je pense que Nuit Debout, pour quelqu'un qui a un certain passé d'activisme, par exemple, ça peut être, faut être patient, quoi. il y a des formes de démocratie directe qui sont bien. En même temps, ça laisse la place aussi à des gens qui parlent tout le temps. Bon, c'est pas non plus toujours très très facile, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui apparaissent, et je pense que, disons, pour les générations les plus anciennes, disons que ceux qui sont nés de la trajectoire de mai 68, ce qui est important, c'est que là apparaissent des générations, justement, qui vont prendre le relais. Je pense que les générations de 68, elles ont atteint
la retraite.
Non, pas la retraite, justement. C'est une génération très active dans la retraite.
Oui, tout à fait.
Non, mais je crois qu'elles ont atteint leur force de propagation. Je sais pas comment on peut le dire, mais l'effet qu'elles pouvaient entraîner sur la société. Maintenant, il y a des nouvelles générations relais qui apparaissent, et je pense qu'elles se forment aussi dans ce type de rassemblement comme Nuit Debout.
Philippe, pour conclure, peut-être.
Ouais.
Sur Nuit Debout.
Ouais, voilà.
Nuit Debout, moi je trouve que c'est bien. Alors moi j'y vais pas beaucoup pour des raisons de temps, parce qu'effectivement ça prend du temps. Mais ce qui est très bien, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est le fait que il y a toute une série de modes de participation et de venue vers le mouvement qui sont extrêmement extrêmement variés. Et ça me paraît le fait de chercher ça, c'est quelque chose de très important, parce que on a bien vu quand même que les tentatives de recomposition politique qui ont pu avoir lieu toutes ces dernières années se sont souvent heurtées à des formes, au fait que finalement les formes de militantisme qui existent étaient souvent figées, etc. Et là justement, il y a ce désir, et ce désir concret, quoi, ce désir en train de se réaliser, de réinventer un certain nombre de formes. Alors ça peut aussi donner des fois des choses où on a l'impression qu'on perd un peu son temps, on sait pas très bien où on va, mais je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Donc oui, je crois que ça traduit vraiment cette idée qu'il y a une forme nouvelle en train de s'inventer, quoi.
Merci. Guy, un dernier mot.
Un dernier mot. Deux petites choses. Faut pas nous inviter déjà, Nico, parce que nous on va squatter toute la.
On avait dit une demi-heure.
Voilà, non. Deux petites choses. Bon, déjà, il faut aussi dire que on n'est pas dans une logique de dire non. Alors bien sûr, on est pour le retrait de la loi travail, mais on avance aussi d'autres revendications au niveau intersyndical. Il y a une revendication qui est partagée, c'est la réduction du temps de travail. Hein, et ça, c'est une question clé. Donc ça, il faut le rappeler. Hein, c'est pas de l'opposition pure et simple, sans réflexion. Et je reviens pour conclure sur la question de la votation. Donc le bulletin de vote. Alors participez-y à cette votation. Donc ça peut être aujourd'hui PFM à d'autres moments. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé de voter pour le retrait du projet de loi. Hein. Il y a un bulletin de vote, c'est retrait du projet de loi travail, pour ou contre. Donc on peut aussi exprimer qu'on est contre le rejet du projet de loi travail. Puis il y a une deuxième question, faut-il aujourd'hui des droits nouveaux pour les salariés, les jeunes, les privés d'emploi et les retraités? Eh bien voilà, donc exprimez-vous.
Voilà, vous pouvez venir dans les studios de Radio PFM. On n'est pas au deuxième étage de l'office culturel, on est au 61 Grand Place ce soir.
Tout en haut.
Un jour il faudra bien, oui, reprendre la lutte. Oui, la lutte finale contre le capital. Voyez les camarades, les petits, les sont gras. Regarde les bourgeois comme ils sont gros et gras. Voyez les camarades, les petits, les sont gras. Regarde les élites comme elles se moquent de toi. Voyez les camarades, les petits, les sont gras. Regarde les bourgeois comme ils sont gros et gras. Voyez les camarades, les petits, les sont gras. Regarde les élites comme elles se moquent de toi.
Vous aurez peut-être reconnu le style de Sale Majesté avec ce titre « Oyez, camarades ». Dans quelques instants, on va retrouver nos invités suivants dans Debout à la Radio 2. On parlera notamment d'une nouvelle association arageoise qui s'appelle La Brique. Il y aura aussi de la musique. On continue en musique avec Del Cielo et ce titre « Faut pas lâcher ».
Trésor des choses perdues. Les trésors, les cailloux oubliés au fond des poches. Oh, le ruban de soie tortillé dans ta poche. Et rien par-dessus. Le ruban des choses cachées, des vieilles Underwood.